RCF. Nos frères aînés, Noémie Marijon.
Connaissez-vous le lien entre l'amict et un talit, entre la chasuble et l'éphod du grand prêtre juif, ou encore entre nos traditionnelles processions d'offertoire et les offrandes des Cohen? Aujourd'hui, dans Nos frères aînés, avec le père Jean-Baptiste Nadler, prêtre de l'Emmanuel, recteur de trois paroisses à Vannes et auteur de « Les racines juives de la messe » aux éditions de l'Emmanuel, nous allons revenir sur les points communs entre l'organisation des églises et du temple de Jérusalem, mais aussi sur les liens entre les objets qui sont utilisés lors du culte, qu'ils soient juifs ou chrétiens. Père Nadler, bonjour.
Bonjour Noémie Marijon.
Comment est-ce que vous êtes venu à vous intéresser à l'archéologie de la messe, si je peux utiliser ces termes?
Ah, c'est un bon terme. Avant d'être prêtre, donc je suis prêtre depuis 17 ans, j'ai été moine, j'ai fait un temps chez les moines bénédictins dans la congrégation de Solèmes, à l'abbaye de Solèmes dans la Sarthe. Et l'abbaye de Solèmes a été fondée par Don Guéranger au 19e siècle et qui avait vraiment à cœur que la liturgie soit la source de la vie chrétienne, soit vraiment pas quelque chose un peu annexe, mais soit la source principale, non seulement pour les moines, mais aussi pour tous les chrétiens. Ça donnera plus tard le Concile Vatican II qui va reprendre ces idées-là. Et donc, Don Guéranger a beaucoup essayé de travailler le sens des rites pour une meilleure participation à la messe, le sens des rites, et notamment en regardant l'histoire des rites. Alors, c'est pas de l'archéologisme, parce que le pape Pie XII disait, attention, ne pas faire de l'archéologisme au sens où tout ce qui serait ancien serait forcément bien. La liturgie est quelque chose de vivant, mais il y a une histoire, il y a une profonde histoire. Et puis, moi, en travaillant un peu les choses, je me suis rendu compte, enfin, j'ai approfondi que la liturgie chrétienne avait elle-même, issue il y a 2000 ans, avait elle-même une histoire et qu'elle s'enracinait dans la vie liturgique juive, celle d'il y a 2000 ans, mais qui continue de grandir. La liturgie juive continue, nos frères juifs continuent de vivre leur liturgie, que ce soit à la synagogue, à la maison, etc.
RCF. Nos frères aînés.
Quels sont les points communs? On va commencer par le gros morceau, l'extérieur. Quels sont les points communs entre une église et une synagogue? Et peut-être même plus loin, entre une église et le temple de Jérusalem?
Ah, le temple. Ben, hélas, et c'est une grande souffrance pour nos frères juifs, le temple est détruit, hein, vous le savez. Il a été deux fois détruit d'ailleurs. Une première fois par Nabuchodonosor, au 7e siècle, et puis ensuite une deuxième fois, jusqu'à ce jour définitif là, par les Romains en l'an 70 de notre ère, de l'ère chrétienne. Donc ça fait en gros 2000 ans que le temple n'existe plus.
Et donc cette destruction, elle va avoir une influence sur la construction des synagogues, j'imagine.
Complètement. Alors l'histoire des synagogues, pour résumer, pour faire à gros traits, c'est justement... Quand le temple n'existe plus, alors que le temple, il est demandé par Dieu. Vous savez, le temple, c'est l'attente de la rencontre. Quand les Hébreux sont au désert pendant 40 ans avec Moïse, Dieu va demander, tu construis une tente avec l'arche, avec tout le déroulement mobilier et aussi la liturgie et les servants, des desservants de cette tente que sont d'abord Aaron, le grand prêtre, le frère de Moïse, et puis ses descendants, donc qu'on appelle les Cohen, les Kohanim, les prêtres du temple, et puis les Lévites, etc., les chantres, enfin il y a tout comme ça, toute une liturgie. C'est Salomon, le fils de David, qui va finalement transformer cette tente en dur, le temple. Voilà. Et c'est la vie, c'est le cœur de la vie liturgique juive, et donc de la vie juive, et puis la destruction, c'est un malheur, c'est vraiment un malheur. À partir de là, nos frères juifs vont... continuer leur culte, c'est-à-dire d'honorer Dieu à travers une liturgie qui va se développer plus autour de la Torah, autour de la proclamation liturgique de la Torah, les commentaires, et ça va donner la liturgie de la synagogue. Ce qui fait que l'architecture d'une synagogue c'est pas un temple, mais va être un peu en correspondance du temple. Toutes les synagogues dans le monde sont tournées vers Jérusalem et vers un point précis dans Jérusalem qui est le lieu où il y avait le temple. Alors aujourd'hui, on connaît le mur dit des Lamentations, mais les Lamentations, c'est qu'une fois par an, c'est lors de l'anniversaire, le 9 Av, l'anniversaire de la destruction du temple. Mais le résultat, c'est pas un lieu de lamentation, c'est un lieu de réjouissance et de prière. C'est ce qu'on appelle le Kotel. En fait, il est à la verticale de là où se situait le Saint des Saints, le d'Ebir, du temple de Jérusalem.
Mais les églises aussi, elles sont orientées, non ?
Les églises sont orientées, alors elles ne sont pas orientées vers Jérusalem, comme le nom l'indique, elles sont orientées vers l'Orient. Peut-être qu'au début, les premiers chrétiens, qui étaient tous juifs et qui reconnaissent que Jésus est, reconnaissent en Jésus le Messie, les premiers chrétiens, on le voit dans les Actes des Apôtres, continuent d'aller à la synagogue, continuent d'aller au temple. On voit Paul, on voit Pierre, on voit les apôtres, on voit les... Voilà, ils vont au temple, donc ils continuent ce lien vivant. Et il est même dit à un moment dans les Actes des Apôtres, au chapitre 6, verset 7, que de nombreux Cohen devenaient chrétiens. Donc des gens qui avaient l'habitude de servir au temple. Et d'ailleurs, l'évangile de Saint-Luc s'ouvre sur la liturgie du temple. Dans Saint-Luc, on a Zacharie, le père de Jean-Baptiste, qui est là, dans le temple, qui est un Cohen, qui fait son office dans le temple, et l'archange Gabriel va lui apparaître à droite de l'autel de l'encens. Oui, parce que dans le temple, il y a aussi des autels. Voilà, donc il y a une correspondance, en fait, très, très fine entre le temple, les synagogues, qui ne sont pas des temples, mais qui y font référence, et puis petit à petit, l'église, qui est le lieu où se réunissent, comme son nom l'indique en grec, ecclésia, c'est l'assemblée qui se réunit au nom de Dieu. Et puis après, on donne le nom du bâtiment à cette on donne église, mais c'est d'abord l'assemblée. L'église, c'est comme synagogue d'ailleurs, c'est la même chose, c'est le même terme. Eh bien, l'église va aussi se construire sur, non pas comme une synagogue, mais un peu en référence. On va retrouver les mêmes éléments, on va retrouver un autel comme dans le temple de Jérusalem, on va retrouver un lieu élevé qui est un peu comme le sanctuaire. On va en retrouver la place de l'assemblée qui est la nef. C'est le lieu essentiel dans une surface d'une église.
La plus grande surface, c'est la nef.
Le plus important, en fait, c'est le lieu où se tient l'assemblée, c'est la nef. C'est pas un lieu de, comment dire, c'est pas du public. C'est un acteur majeur de la liturgie. C'est l'église qui se rassemble dans la nef.
Alors, vous nous avez parlé de lumière, d'encens, il y a la question de l'eau aussi, tout ça, ça sollicite les sens. Est-ce que vous pouvez revenir notamment sur peut-être l'origine du bénitier ou du baptistère ? Est-ce qu'on retrouve ça dans les synagogues ?
Alors moi, j'y fais des correspondances. Alors, le baptistère, clairement, c'est-à-dire que le fait de se plonger, c'est le sens du mot baptiser, le fait de se plonger dans l'eau ou d'être plongé dans l'eau pour en ressortir, hein, parce que quelque chose qui est très vivant chez nos frères juifs, qu'il était il y a 2000 ans mais qu'il le continue, il y a les mikvés, ce qu'on appelle le mikvé, c'est-à-dire un bassin d'eau qui est un rite de purification. Attention, hein, à travers, les rites ont des symboles, à travers le fait de se plonger dans l'eau, qui est un symbole, il s'agit d'avoir une purification intérieure. Il ne faut jamais se dire, tiens, parce qu'ils se plongent dans l'eau, ils pensent que ça y est, ils sont purifiés. Non, c'est un rite extérieur, mais qui suppose et qui aide à avoir une transformation, une attitude intérieure. Évidemment, hein, ne jamais découpler le rite extérieur de l'attitude intérieure, sinon on serait dans du ritualisme. Eh bien, le mikvé, c'est un rite de purification qu'on retrouve régulièrement pour les hommes, mais aussi pour les femmes. Jean-Baptiste va utiliser ce rite comme qui existait déjà. Il va lui donner une signification de pénitence. Et les premiers chrétiens vont donner à ce rite-là une signification complémentaire et nouvelle, ce qu'on appelle un accomplissement, pour dire qu'on est plongé dans la mort et qu'on ressort dans la résurrection de Jésus. Donc ça, c'est le baptistère qui s'inspire des mikvés juifs. Maintenant, le bénitier... Vous savez, quand on rentre dans une église, on prend de l'eau bénite et on se rappelle de notre baptême, signe. C'est en faisant le signe de croix. Moi, j'aime bien le mettre en correspondance avec un autre rite qu'on ne trouve pas que dans les synagogues, mais dans toute maison juive, qui est la mezouza. La
mezouza, mezouza,
c'est alors ça veut dire le montant de la porte, hein, en hébreu. C'est lorsque Dieu donne le premier commandement, à travers Moïse, il dit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Ce commandement, tu l'attacheras au montant de tes portes. » Et donc, on touche ce petit rouleau, ce petit coffret dans lequel il y a le rouleau qui rappelle ce commandement. Un juif met ça au montant de la porte, porte d'entrée, aux différentes portes de la maison et de la synagogue aussi. On le touche et on l'embrasse on embrasse ses doigts. Ben, je trouve que notre rite du bénitier, il rappelle un peu ça.
Est-ce que les vêtements des prêtres juifs, des Cohen et des prêtres actuels, ce sont les mêmes? Il y a des liens?
Il y a un lien évident, c'est l'aube. Ceux qui servaient dans le temple étaient revêtus d'un vêtement blanc, en lin blanc, une aube, quoi, pour bien manifester la différence entre le lieu profane et le lieu sacré. Donc ils changent de vêtements avec eux-mêmes. Avant de changer de vêtements, il y a aussi, ils se plongent dans l'eau. Dans le temple de Jérusalem, il y avait un immense bassin avec plein d'eau qui servait au rite de purification et de préparation. Ben, ce vêtement blanc, cette aube, on l'a gardé. C'est le vêtement qui n'est pas propre aux prêtres. Il est propre à tous ceux qui ont un office dans le sanctuaire d'une église. Les prêtres, les diacres, les évêques, les servants, voilà. Mais même aussi, on pourrait mettre l'aube aux lecteurs, aux acolytes, enfin, tous ceux qui normalement rentrent dans le sanctuaire. Et on va retrouver ce vêtement blanc dans l'Apocalypse de tous ceux qui sont au ciel. Tous ceux qui sont dans le sanctuaire du ciel. Parce qu'en fait, le sanctuaire du temple ou le sanctuaire de nos églises, c'est une image du sanctuaire du ciel. Et l'aube qu'on reçoit à notre baptême, on devient tous, au moment du baptême, prêtres, prophètes et rois. Donc on reçoit ce vêtement blanc qui est en fait l'aube des servants dans le temple.
Merci Père Nadler pour cette découverte des origines, des objets et du mobilier que nous voyons tous très régulièrement à la messe. Merci beaucoup à Grégoire Johan et à Pascal Gauthier et à l'antenne d'RCF de Sud-Bretagne pour l'organisation de ce duplex. Bonne semaine à tous et à toutes à l'écoute de RCF et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Nos Frères Aînés.